couche, tablette, portable et autres montres à gousset. Victoire, il est 20h. Sur Radio G, évidemment. Alors, on y va ? Ah non, on veut pas. Mais on veut pas avoir de musique. Alors pourquoi on veut pas avoir de musique ? Ça va mal commencer si c'est ça. Comment fait-on ? Alors, vraie question. On revient tout de suite. Look at myself through your eyes. Are you still there? In my dreams. Am I still here? As it seems, are you still there? En joie, dites-le très officiellement, ça nous fera plaisir, voire même extatique. Sortez vos langues de belle-mère, pas de panique, c'est Quasar on the air.
This is your first and final chance. Give over to your man. I'm losing touch. Thank you.
17h05 sur Radio G. On y va ? C'est bon, c'est parti. Bon, problème, rien ne part. Ça va être très compliqué ce soir, je le crois. Et je crains que Quasar Anzière, on reste là, à moins que quelqu'un puisse nous dépanner.
Like a seasoned vet with a gun to the sky, quadruplex and a telescopic eye.
Aussi compliqué à démarrer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous nous rejoignez avec plaisir. Une semaine qui aura vu en France l'adoption définitive de la loi contre les thérapies de conversion. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, reste à l'appliquer. Quasar Anzière, c'est l'émission de Quasar, le centre lesbien, gay, bi, trans et intersexe plus d'Angers, 15 rue de Jérusalem. C'est entre le boulevard des Deux-Croix et la rue des Banchets. C'est perpendiculaire à l'avenue Pasteur si vous voulez plus nous retrouver avec nos horaires de permanence. Alors justement, puisque nous sommes en train de parler de ces questions et de cette réalité absolument importante que sont les permanences, eh bien, sachez qu'elles ont lieu tous les samedis. Mais alors, pas samedi prochain qui arrive, mais les samedis d'après, les 5, 12, 19 et 26 février, puisque cette semaine, samedi 29 janvier, eh bien, figurez-vous que c'est l'Assemblée Générale de Quasar, et donc impossible de tout faire en même temps. Alors donc, on en profite et on fait en sorte de pouvoir se réunir. Nous serons salle d'avier pour cette Assemblée Générale annuelle et traditionnelle. Notre agenda, eh bien, il se poursuit en février avec le jeudi 3, le temps de transparent à 19h dans nos locaux, 15 rue de Jérusalem. C'est le groupe de parole des parents et des familles de personnes transgenres à genre et non-binaires. Lundi 7 février, c'est la Prépa Pride numéro 3 à l'entre-deux à 19h. Le jeudi 10, eh bien, nous nous retrouverons pour Quasar Anzière, comme le jeudi 24. Et puis notez enfin, le samedi 19 février, ça sera le numéro de Transat, le groupe de parole par et pour les personnes transgenres, agenres et non-binaires. Et ce que je vous propose, eh bien c'est, puisque techniquement nous avons quelques difficultés, c'est d'entrer directement dans la discussion avec un invité que nous avons au téléphone. Bonjour Dragon.
Bonjour.
Alors tu nous rejoins parce que on va tout dire à tout le monde, mais ce qui est simplement officiel et ce qui est disible ou disable comme on veut, tu nous as envoyé un document dont on va reparler en long et en large, oui, sur tout ce qui est finalement la problématique transidentitaire quant au choix possible d'un prénom d'usage puis d'un parcours de transition. On va revenir sur toutes ces notions-là, et comme ce document est très bien fait, on s'est s'est dit, on va s'intéresser à la personne. Et c'est justement l'occasion ce soir, après ce début chaotique, de pouvoir te retrouver avec plaisir. Alors, déjà, je note que tu as un pseudo qui est Dragon. Donc, je suppose c'est que tu l'utilises pour pouvoir être plus tranquille à l'heure du tout informatisé, du « je retrouve tout le monde » avec toute sa vie, son œuvre. C'est bien ça ?
Oui, voilà, c'est histoire de pouvoir être anonyme sur Internet ou, on va dire, autre part que dans ma vie privée.
D'accord. Bon, bah c'est déjà un premier point. On a bien compris que c'était vraiment important et on le comprend d'autant qu'on t'appelle Dragon. Mais alors pourquoi Dragon particulièrement ? C'est la question.
c'est un... Comment dire, Dragon, c'est aussi une façon de me définir parce que en général, quand on a besoin de moi, on vient me chercher et là, je trouve des solutions. Et donc, disons, un dragon, c'est un peu un monstre, c'est un peu celui dont on... Comment dire on connaît pas vraiment bien ce que c'est que le dragon. C'est un peu j'ai du mal. Hein.
Non, mais c'est intéressant de voir le cheminement en tout cas.
C'est un monstre le dragon en général, c'est une bête qui est très forte. Au moins dans un domaine. Alors dans l'imaginaire, c'est celui le dragon de feu. Voilà, il est très bon pour le feu, par exemple. Donc moi, je vais être plutôt bon pour trouver des solutions en général. Le dragon, il y a une double idée. Il y a le fait de pouvoir résoudre des problèmes, et puis le fait que un dragon, c'est pas si défini que ça au niveau de la forme dans l'imaginaire. Un dragon, il y en a qui vont le dessiner avec des ailes, d'autres quatre pattes, deux pattes, enfin, voilà, il y a beaucoup de variantes, et au final tout ça, c'est très pluriel et ça me ressemble.
D'accord. Donc, on en arrive.
En même temps pas défini et en même temps défini.
Très bien. Donc, on en arrive à la question fondamentale de l'utilisation d'un pseudo qui dit quelque chose de toi. Et ce toi-là est passé par une étape de questionnement, de réflexion transidentitaire avec un certain nombre d'étapes. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, tout à fait. Alors déjà, qu'est-ce que la transidentité ?
Oui, bonne question.
Donc là, je dirais la question la plus intéressante dont on va parler, la transidentité. Donc, une personne qui... une personne, un bébé qui naît, dans nos sociétés, on va lui attribuer un genre. Et donc, on va dire que c'est un genre qu'on lui a proposé à la naissance. Alors, en général, on lui propose, mais on lui donne un peu de force. Hein. On ne lui demande pas son avis. Et en général, le genre qu'on lui a proposé lui convient.
Mais est-ce que tu es sûr véritablement qu'on le propose et qu'on ne l'impose pas plutôt ?
On l'impose, voilà. Mais, on va dire qu'il y a un moment dans la vie, donc le bébé grandit et il a sa personnalité, il y a un moment dans la vie où il peut réfléchir à ça et voir qu'en fait, si on veut tourner les choses de la bonne manière, on pourrait dire que la société lui propose quelque chose et lui, il accepte, ou alors il dit en fait, ça me convient pas. Ou alors ça me convient, ça dépend. Hein.
Alors donc là, on parle de personnes à qui ça convient, de personnes cisgenres, c'est cela.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Donc en fait, on a deux termes. Il y a le terme cisgenre pour des personnes à qui ça correspond, leur genre correspond à celui qui a été imposé à la naissance, et une personne transgenre. En fait, c'est l'opposé, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne se dont le genre ne correspond pas à celui qui a été imposé à la naissance. Alors, soit il correspond pas du tout, soit il correspond qu'en partie. Voilà. Et dès que ça correspond pas tout à fait, on rentre dans le cadre de la transidentité.
D'accord. Alors, toi, ton parcours a été celui de la transidentité et de quelle manière ?
De quelle manière ? Alors,
Pour dire les choses, toi, ce questionnement-là est arrivé vers l'âge approximatif de quelle période ?
Eh ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc tout parcours trans va être différent. Il y a des personnes, c'est un questionnement qui arrive à 50 ans. Pour d'autres, c'est un questionnement qui a été même pas une question et qui a été clair dès le début, dès je sais pas 2-3 ans. Moi, pour ma part. En fait, je peux pas dire que on met des mots dessus tout de suite parce qu'on connaît pas quand on est enfant, on connaît pas ce que c'est que la transidentité. On est du verbe être trans, on est aussi du verbe naître.
C'est
trans.
Ça.
Mais si on n'a pas connaissance du reste du monde, on peut pas en fait mettre des mots dessus comme ça.
Voilà.
Après, c'est quelque chose qu'on ressent parce que on sent un certain décalage. Moi, en fait. Dans mon enfance, je pourrais dire que le monde entier autour de moi, mon environnement, attendait des choses de moi qui ne me parlaient absolument pas.
Et que tu ne pouvais donc pas poser ni faire parce que c'était pas possible.
Voilà, en fait, ça me ressemblait pas. C'était des choses qu'on m'imposait et en fait, on me guidait en me disant bah voilà. Alors soit on me le disait frontalement, hein, soit c'était tout le monde faisait comme ça, donc il y avait une espèce de norme à faire ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en fait. Tout le monde allait dans une direction. Alors qu'en fait, moi, ça ne me parlait absolument pas. Donc, plus tard que moi, je me suis questionné sur... le genre, sur les pronoms, sur en fait plus globalement la société, qu'est-ce que le genre, qui est en fait une construction sociale, c'est pas du tout inné.
Oui.
Y a le genre et il y a l'expression de genre. Donc, comment est-ce que on va exprimer notre genre ? Et c'est pareil, l'expression de genre est très plurielle d'une personne à l'autre.
Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'expression de genre, de parcours. Alors, le mot parcours est déjà au pluriel, mais de parcours au pluriel, parce que chaque personne a son propre cheminement, et c'est pas parce qu'il y a quelques autoroutes que les personnes peuvent utiliser que c'est forcément pour tout le monde de la même manière. C'est bien ça.
Oui.
Alors, ce que je te propose, Dragon, c'est qu'on fasse une première petite pause, et puis ensuite, justement, pour évoquer la réalité de différents parcours, on va revenir sur un certain nombre de points qui font l'objet de ton document et qu'on va pouvoir détailler dans quelques instants. D'accord ? À tout de suite. Merci. Radio G, Quasar en Zier, c'est Oshi.
J'essaye de me sentir bien, je passe d'un cœur à un autre. Je vais pas te mentir, hein, j'embrasse vainqueur, je suis en fraude. Je sais que je vais trop loin, je suis voyageur, c'est pas de ma faute. Je prends le premier train, je pars ailleurs, loin de tes côtes. Je zappe à la demande. Je tape mon cœur, télécommande. Je t'attrape, m'échappe. Dès que je te succombe, personne n'est cap. T'es dans mon monde, je suis un migrateur. Je suis touriste dans chaque corps. Je prends la fuite quand tu dors, un migrateur. Je fais du harpy sans faire de sport. Est-ce qu'il existe un sponsor pour les migrateurs? Je prends la fuite quand tu dors, un migrateur. Je fais du harpy sans faire de sport. Maçon, je t'ai un sort. C'est vrai, je voyage léger, je cours avec un passé lourd. Dis-moi comment aimer, chaque carrefour, je fais demi-tour. Paumé sur un quai, j'évite les contrôleurs de l'amour. Je suis un colis suspect, mes âmes sœurs font des détours. Je zappe, à la demande. Je tape mon cœur, télécommande. Je dérape, je parle, même à mon ombre. Je m'en tape, je pars, vive dans mon monde. Je suis un migrateur, je suis touriste dans chaque corps. Je prends la fuite quand tu dors, un migrateur. Je fais du harpy sans faire de sport. Est-ce qu'il existe un sponsor pour les migrateurs? Je suis touriste dans chaque corps. Je prends la fuite quand tu dors, un migrateur. Sans faire de sport, Maxon, je t'ai un sort.
Migraqueur, le migraqueur ou la migraqueur, la personne de Oshi sur Radio G. C'est Quasar Anzière, un peu bousculé, mais techniquement on va y arriver. C'est l'essentiel, en tout cas je l'espère. Bien, alors, notre deuxième partie ce soir est effectivement un invité que nous filons et que nous suivons puisque nous rejoignons Dragon qui est au téléphone et qui nous a fait l'amitié d'être disponible pour nous expliquer ce soir un certain nombre de définitions, de points concernant la transidentité. Alors il nous a expliqué un peu sa prise de conscience, le fait d'être une personne transidentitaire, puis vis-à-vis des personnes cisgenres. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous l'avons invité ce soir sur Radio G dans Quasar Anzière pour nous parler d'un document qu'il a mis au point. Alors, ce document, c'est un fichier PDF à base de travail graphique Word certainement ou autre programme où tu expliques un certain nombre de choses dont peut-être on va détacher deux points principaux pour les 15 minutes qui nous restent sur le changement de prénom et le ce qu'on appelle le CEC, c'est-à-dire le changement d'état civil. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est le prénom d'usage pour une personne transidentitaire?
Alors le prénom d'usage, c'est le prénom qu'utilise la personne trans au quotidien. C'est pas forcément le prénom qui est sur son état civil, mais en tout cas c'est son prénom et c'est son vrai prénom. Contrairement à son état civil qui est pas forcément à jour, où il y a peut-être l'ancien prénom qu'elle n'utilise pas.
Alors on l'appelle le dead name, sauf que le problème c'est que la société considère que le seul et vrai nom, c'est celui de l'état prénom, pardon, c'est celui de l'état civil. Et c'est bien là où le problème se pose au quotidien. Alors quand on a un prénom d'usage, dans le genre de destination auquel on se destine soi-même, quand on est personne transgenre, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir l'utiliser? Alors prenons l'exemple d'un ou d'une lycéenne, et comment fait-on pour le changer?
Ce qui est compliqué avec les lycéens, c'est qu'ils ne sont pas majeurs, et donc là, c'est des situations assez compliquées. En tout cas, on va dire qu'on a deux voies. La première, c'est quelque chose qui se rapporte à l'état civil, mais ça, ce sera possible uniquement donc de changer son état civil quand on est majeur. La deuxième voie au niveau du lycée va être en fait de demander au lycée de changer le prénom de manière officieuse sur les listes de classe, sur les papiers, tout ça, du lycée. Mais attention, parce que eux, ils pourront pas changer l'état civil, donc au niveau du diplôme, du bac, tout ça, ce sera bien l'état civil.
Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que le dossier administratif, l'enregistrement, l'inscription sont toujours avec le prénom, le dead name, le prénom de, d'état civil d'assignation de naissance. Par contre, les documents, liste d'appels et appellations pendant les cours peuvent utiliser le prénom d'usage. Petite rectification, voilà. On est bien d'accord quand même qu'avec l'accord des parents, puisque les jeunes sont mineurs, ils peuvent faire la démarche à la mairie de changement de prénom qui peut, lui, être accepté officiellement, même mineur.
Alors, bah oui, justement, oui. J'ai...
Ça paraît plus compliqué. Parfois, les mairies se mélangent les pinceaux et refilent le bébé au procureur de la République, mais c'est bien effectif. Et on obtient des changements de prénom avec l'accord des parents. Bien évidemment, le sésame, c'est absolument l'accord des deux parents. Alors, les situations de divorce, quand l'un ou l'autre refuse, sont des situations de fermeture de possibilités, certes, mais c'est une possibilité qui se fait jour. En tout cas, nous, on a des personnes, oui. des oui. jeunes mineurs qui ont réussi à changer leur prénom.
Hein? Pardon, en fait, donc dans ce qu'on appelle le changement d'état civil, CEC, donc c'est n'importe quel changement qui est relatif à l'état civil. Oui. Alors là-dedans, au niveau de la carte d'identité, on a deux types de changement d'état civil. D'un côté, le prénom, voilà. De l'autre côté, la mention.
Donc là, on ne parlait que du changement du prénom, voilà, à l'état civil de la mairie. Donc là, c'est un changement d'état civil, certes, mais c'est une première étape qui est possible pour les mineurs. Voilà. En revanche, et on arrive bien à cette question-là, et tu avais tout à fait raison, maintenant, la question du changement d'état civil pour ce qu'on appelle la mention du sexe. Parce que le problème, c'est que l'état civil, dans ses appellations, en mélange tout en réalité. L'état civil mélange la notion du sexe qui est la notion du genre. Et le genre n'est pas le sexe et le sexe n'est pas le genre. Et c'est bien la difficulté à faire comprendre à tous les citoyens français et toutes les Françaises de façon à ce que les choses soient bien comprise. Donc, voilà, si on arrive sur cette deuxième phase, ça commence comment ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'un changement d'état civil puisse réussir au sens de changer la mention du sexe, donc ce que nous appelons du genre, sur les papiers d'état civil ? Parce qu'on rappelle que sur la carte nationale d'identité, les mentions F ou M ne sont finalement sur les documents que depuis 1974. Avant, on s'en passait très bien et on s'en passerait très très bien aujourd'hui. On est bien d'accord. Et ça serait moins le bazar. Donc, comment on fait pour changer ces mentions-là ?
Alors, le changement peut être fait soit à la mairie pour le prénom.
Voilà.
Alors, effectivement, que la personne soit majeure ou mineure. On rectifie, donc là le changement peut être fait et le changement peut aussi se faire au tribunal, et alors là on peut changer le prénom mais également la mention du genre qui s'appelle mention du sexe.
C'est
sur
ça.
Les documents
d'état civil. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont commencer par aller à la mairie, à l'état civil et demander uniquement le changement du prénom, ça sera possible dès qu'on est mineur, mais quand on est majeur aussi, et qui vont attendre ensuite pour aller faire la deuxième opération finalement de changement d'état civil, qui est le changement de mention du sexe. Ou des personnes décident de faire les deux demandes dans une seule et même audience, un seul et même dossier. Et là, obligatoirement, il sera devant le tribunal judiciaire, soit de la ville de naissance, soit de la ville où l'on habite.
Exactement.
Alors, on fait comment pour avoir un bon dossier ?
Alors, juste concernant les mineurs, le changement donc de mention du genre n'est pas possible tant que la personne est mineure.
C'est ça. Que les parents soient d'accord ou pas, ce n'est pas possible dans la loi actuellement.
Exactement. Alors, comment on fait comment construire un dossier de changement d'état civil ?
C'est ça.
Si on veut le faire uniquement en mairie, uniquement pour le prénom, c'est assez simple. Il faut regarder la circulaire du 17 février 2017. On a une annexe à remplir. En fait, c'est assez rapide et ça dure le dépôt du dossier à la mairie et puis la procédure derrière dure quelques mois. Et donc, c'est quand même beaucoup plus rapide que la deuxième procédure possible, donc qui est au tribunal. Donc au tribunal, là par contre, c'est la constitution d'un dossier dans lequel en fait on explique beaucoup plus de choses que en fait le petit dossier de la mairie en fait.
Alors, si on veut donner quelques indications concernant, là on se met dans le changement du prénom à l'état civil de la mairie où l'on habite ou de naissance. Il faut bien rappeler qu'il y a des attestations, des témoignages de personnes qui disent, ben voilà, cette personne, en utilisant son prénom d'usage, je l'utilise déjà depuis, je la nomme de cette façon-là, depuis 6 mois, 1 an, et tout se passe bien. Et souvent, les personnes oublient une chose, mais alors vraiment, qui est d'une simplicité banale, c'est d'avoir un mail aussi avec ce prénom-là, ce qui indique l'antériorité de l'utilisation du prénom. Et c'est un très très bon moyen. Il suffit, dès qu'on a choisi son prénom, de se créer cette adresse mail, d'avoir quelques premiers échanges, soit avec une asso, soit avec des cousins, des amis, ainsi de suite. On le met dans le dossier et le temps joue pour nous, puisque l'état civil de la mairie doit aussi juger de l'intérêt pour la personne de l'utiliser et de son antériorité. Donc, tout se conjugue là, à ce moment-là. Donc, si on a réussi ça, maintenant, la deuxième partie pour le changement de mention du sexe, c'est nettement plus important et nettement plus complexe comme document et comme approche, finalement. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes pour bien remplir cette deuxième partie ?
En fait, concernant tout le dossier qu'on dépose au tribunal, c'est là où on parle du guide que j'ai écrit.
Voilà.
Alors, j'ai écrit un guide complet. Bon, je l'ai écrit seul, mais avec beaucoup de monde derrière moi aussi, parce que j'ai demandé à beaucoup de personnes leur avis ou des informations sur le sujet en fonction des parties qu'il y a à faire dans ce dossier. Et moi-même, j'ai marqué en fait tous les conseils que j'ai à donner pour la constitution du dossier, pour le pendant, c'est-à-dire pendant le traitement du dossier, éventuellement pour une convocation, et puis pour l'après. Qu'est-ce qu'il faut changer après? Il faut mettre à jour, par exemple, tout ce qui est les diplômes, le numéro de sécu, tout un tas de choses comme ça. Donc j'ai écrit vraiment ce guide complet qui va résumer tout et qui propose une trame complète du dossier, avec donc d'un côté la partie où on explique notre situation, et puis on a une deuxième partie dans le dossier, donc pour le tribunal, qui correspond en fait à les textes de loi tout ce qui est juridique. D'accord. Au niveau du tribunal, pour en fait appuyer le dossier sur des situations qu'on fait jurisprudence ou des textes de loi qui plaident en notre faveur. Donc en fait, dans le guide que j'ai écrit, tout l'aspect juridique est déjà en place. On n'a rien à toucher, il y a juste à écrire en fait la partie qui nous concerne personnellement. Donc mettons une ou deux pages tapées à l'ordinateur où on explique notre situation. Qu'est-ce qui fait que en fait on demande ce changement-là? Et puis ce qu'on a aussi à faire, c'est toute la partie des pièces qu'on ajoute au dossier.
D'accord.
Donc ça va être
Alors, avant de prendre un exemple, moi j'ai une question. Est-ce que toi, de ton expérience, une fois qu'on a obtenu ce changement d'état civil, on a la fameuse difficulté d'obtenir de la part de l'INSEE un nouveau numéro de sécu, une nouvelle mise en place de la totalité, même si l'état civil a été modifié? Pour ton cas à toi, est-ce que l'INSEE a mis beaucoup de temps à te donner ce fameux numéro de sécurité sociale adapté à ton genre?
Eh ben, pour moi, ça a été plutôt tranquille.
D'accord. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est ça ce que je voulais dire.
Voilà, j'ai des amis pour qui ça a été quand même beaucoup plus compliqué, avec des histoires, ils n'ont pas compris le prénom, ils se sont mélangés avec d'autres choses, et en fait, ça a créé un énorme bazar administratif. et informatique, il avait plus accès à sa session. Ça a été très très compliqué.
D'accord.
Moi, je n'ai eu aucun problème ou vraiment. Alors j'ai dû leur téléphoner ou leur envoyer un dossier. J'ai été très très clair dans ma lettre, en allant droit au but et en leur donnant les infos dont ils avaient besoin avec les bons documents. Et en fait, ça a été plutôt rapide. Voilà, j'ai fait ça il y a quand même plusieurs années maintenant.
D'accord, mais tu l'as fait à Angers, on est d'accord. Hein
ce changement-là, oui.
D'accord. Et ma question, c'est est-ce que toi, tu as été convoqué devant un tribunal avec président, assesseur et juré, ou ça a été différent ?
Eh ben, alors moi, pour ma situation, donc j'avais fait mon dossier au tribunal en ayant déjà fait le changement d'état civil en mairie. Donc en fait, je n'ai pas été convoqué et c'est plutôt rare. On a à peu près, j'avais fait des statistiques. Il me semble que c'était 80% des personnes qui étaient convoquées.
D'accord. Et tu expliques ça comment ?
Comment je l'explique ? Alors parfois. Souvent, il n'y a pas de volonté négative derrière, c'est juste de vérifier que la personne dépose bien en main propre son dossier, qu'elle est consciente des changements que ça implique. On va dire que c'est très propre, c'est très, très tranquille comme convocation, ça dure 10 minutes, et voilà, c'est très très dans la procédure.
Est-ce que tu voudrais dire par là qu'à partir du moment où le greffier ou la greffière sent que la personne est très carrée, très calme, que le dossier est impeccable, ça ne nécessite pas de passer devant un tribunal ?
Alors, non, je ne dis pas ça.
C'était ma question.
Ce que je dis, c'est que ça dépend énormément des tribunaux. Il y a des tribunaux qui ne vont pas convoquer, il y en a d'autres qui convoquent systématiquement, quel que soit le dossier. Ensuite, alors que dans les textes de loi, la discrimination au physique est interdite, on s'aperçoit que généralement les personnes qui demandent un changement d'état civil et qui ont un cis-passing selon des personnes cis, qui va
ne pas correspondre à leur image et selon leurs préjugés. Voilà,
c'est une histoire de préjugés.
Ouais.
Donc, quand il y a une problématique de cis-passing, donc on parle bien de l'apparence, hein, d'accord ?
Oui, on est d'accord.
En fait, on s'aperçoit que.
Là, ils convoquent.
Les personnes vont être jugées et donc possible, donc ça dépend des tribunaux bien sûr, mais possiblement convoquées. On va leur poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, ou alors on va leur demander des preuves qui n'ont pas lieu d'être. Rappelle au niveau du texte de loi.
Soyons précis. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'ils leur demandent des preuves d'opération et on revient à l'antériorité d'avant 2016 où tout cela a changé. Et aujourd'hui, on rappelle qu'il n'y a plus aucune obligation de fournir le moindre document prouvant que la personne a subi une opération de réassignation. On est bien d'accord.
C'est même plus large, c'est-à-dire que qu'on ait ou non choisi de prendre une substitution hormonale, qu'on ait ou non choisi la voie de la chirurgie, quelle que soit la chirurgie, le tribunal n'a pas à nous demander ni des preuves là-dessus, ni à nous juger sur notre physique ou sur la tessiture de notre voix, sur quoi que ce soit qui est lié directement à ce qu'est l'apparence au sens global social du terme. Donc, une personne trans qui n'aurait pas choisi de changer son régime hormonal ou de faire d'opération, elle est quand même légitime à être trans, hein, tout simplement. Et elle a le droit à son changement d'état civil sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit de médical.
Ça,
j'appuie bien dessus parce que certains tribunaux vont demander, c'est illégal, hein, vont demander ce genre de preuves alors qu'ils n'ont plus à les demander.
Voilà.
Ils se basent sur les choses d'avant 2016, ce qui est quand même très très grave. Et donc normalement, un changement d'état civil, ça se fait. Notre part, c'est de déclarer notre situation. Donc ça, c'est dans le dossier. Ensuite, on va ajouter des pièces, par exemple un ou deux témoignages d'amis ou un ou deux témoignages de la famille. Alors quand on n'a pas de témoignage de famille, on peut faire des témoignages d'amis. Hein,
tout
c'est
à
pas
fait.
Un problème.
Les gens autour de soi, tout ça. Effectivement. Dragon, le temps passe tellement vite. je me souviens de la personne qui me disait, mais je ne vais pas y arriver, ça va être difficile, j'ai pas l'habitude. Et maintenant, on ne t'arrête plus, c'est bien ça. C'est ce que je comprends maintenant. Non, mais c'est toujours comme ça.
C'est la première fois à la radio.
Eh ben, écoute, c'est une première fois réussie. Un grand merci pour tous ces grands conseils. Donc, Quasar diffusera ton document avec ton accord, bien évidemment, de façon à ce que la vie soit simplifiée pour un certain nombre de personnes autres entre nous. Un grand merci pour ta disponibilité, le fait d'avoir été avec nous et de profiter de tes conseils maintenant sur Radio G. Très très bonne soirée à toi, à bientôt, au plaisir.
Je peux rajouter quelque chose ?
Oui, vas-y.
Oui, alors n'hésitez pas à me contacter, que ce soit Quasar ou une personne trans ou en questionnement qui voudrait. Et puis, donc j'ai donné mon guide à Quasar qui va le diffuser. Et donc, dedans, il y a mon mail ou une manière de me contacter. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes en questionnement ou que vous avez besoin d'aide.
Merci, Dragon. Très bonne soirée et au plaisir. Hein. Ciao.
Au plaisir. Ciao. I still hang around. Neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright.
À rien, vous prenez votre verre, vous sirotez. Smooth Jazz, The Crusaders, Street Life.
I play the street life because there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. You let some people say just who you want. You are.
mythique The Crusaders des années 60-70 et là un titre de 1979, The Street Life. Quasar en hier jusqu'à 21h sur Radio G. Vous ne bougez pas et nous accueillons une nouvelle invitée. Cette invitée, c'est une journaliste, c'est Ariane Chemin. Bonjour Ariane Chemin.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir. Alors, on n'a pas l'habitude souvent d'avoir des journalistes d'audience nationale, sauf évidemment les journalistes parfois de Committed. Mais vous, Ariane Chemin, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore et qui ne connaîtraient pas votre plume, on rappelle que vous êtes journaliste et essayiste français et que vous signez dans Le Monde. Alors, vous avez reçu en 2018 le prix littéraire Hervé Gasquière avec Raphaël Baquet, votre complice de l'écriture de votre ouvrage La Communauté. Et si on vous a invité ce soir, mais alors avec grand plaisir dans cette émission Quasar en hier, c'est parce que vous avez signé la semaine dernière dans Le Monde une série de 5 longues enquêtes sur l'homosexualité avant, finalement, ce qu'on a appelé parfois à tort la dépénalisation, en tout cas, avant la mise un terme à une discrimination qui concernait les homosexuels et qu'on a appelé le délit d'homosexualité, bien que c'était pas tout à fait l'homosexualité qui était pourchassée en l'occurrence, mais c'était un problème de majorité et de minorité dans les relations sexuelles entre personnes consentantes, certes, mais il n'empêchait qu'à l'époque, avant 82, puisque c'est le 4 août 2000, enfin 1982, que le fameux article, l'alinéa 2 de l'article 331 du Code pénal a été aboli. Mais avant ça, la première question, la genèse de cette enquête, ça vous est venu comment de proposer à votre rédaction en chef d'écrire ces 5 longs portraits, finalement, ou thématiques autour de l'homosexualité?
Alors écoutez, c'est venu en fait d'une idée du l'ancien directeur de la rédaction du Monde qui avait été tombé sur Internet sur un article de deux jeunes chercheurs de l'EHESS, oui, qui avaient fait une enquête et qui pensaient qu'on pouvait arriver au chiffre de 10 000 personnes qui auraient été victimes justement de ce que vous avez très bien appelé un délit d'homosexualité, c'est le mot juste. En revanche, effectivement, il n'y a pas de pénalisation de l'homosexualité en France, c'est le cas en revanche en Angleterre et en Allemagne, mais pas en France. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'ignorais totalement ça, c'est un monde qui m'est inconnu, mais c'est ça qui est merveilleux dans le journalisme. Et je me suis lancée, en fait, un peu la fleur au fusil, en me disant, ce sera très facile, je vais trouver le dernier condamné français pour homosexualité. Et là, j'ai compris l'ampleur de la tâche, puisque j'ai commencé cette enquête en janvier 2020, et que je l'ai publiée 2 ans après. Ça a été peut-être l'enquête qui, dans ma vie, et pourtant j'en ai fait beaucoup, oui, m'a demandé le plus
d'énergie. C'est ce que j'allais vous dire.
Mais c'est aussi peut-être l'enquête qui m'a le plus passionnée, parce que je ne connaissais rien, absolument rien à ce sujet. J'ai été révoltée, je dois dire, de découvrir ce que je découvrais. Et surtout, je vais vous l'expliquer, j'ai eu un mal infini à trouver des personnes qui avaient été victimes de ce délit, à tel point que j'ai failli abandonner, et je me suis dit, si j'abandonne, on croira que ça n'a jamais existé, et ça m'a donné la force de continuer.
Oui, c'est-à-dire voilà, la motivation, vous la trouviez sur cet argument-là. Alors, les personnes que vous avez rencontrées, on peut en citer quelques-unes, hein. Bernard Bousset, le fondateur, oui, du SNEG, qui est parisien, qui habite au-dessus de l'Open Café rue des Archives, et là, il vous décrit sa vie, de toute son histoire familiale. Comment est-ce que vous, dans l'esprit qui est celui que vous venez de nous expliquer, vous accueillez une vie comme la sienne avec ce que lui va vous décrire, les paroles de la famille, le besoin et les condamnations. Enfin, comment est-ce que vous avez réussi? Ça a été votre premier rencontré ou il était...
Non, pas du tout, d'accord, parce qu'en fait, au départ, je suis passée par des associations, oui, homosexuelles qui étaient toutes fort aimables, mais me disaient, je ne connais pas de personnes qui ont été condamnées.
Voilà.
À tel point que je commençais à douter. Mmh. Ensuite, j'ai été aux archives, et j'ai passé beaucoup de temps aux archives, mais les archives, c'est très compliqué, parce que c'était de la correctionnelle, donc c'était des gens qui étaient condamnés au prétexte d'un attentat à la pudeur ou d'une atteinte aux bonnes mœurs ou d'un acte contre nature, mais c'était noyé au milieu, par exemple, d'un cambriolage ou d'un vol à la tire ou d'une conduite en état d'ivresse. Donc, j'ai passé un temps infini à regarder ces énormes classeurs de correctionnels à Paris, et je suis ressortie au bout d'une semaine avec une dizaine de noms. Et j'ai commencé d'abord à m'apercevoir évidemment des ravages du sida, puisque voilà, la moitié, je dois dire à peu près, de ces personnes étaient mortes. Et puis ensuite, j'ai cherché dans les pages blanches et j'ai trouvé des noms et des gens qui étaient encore vivants. Et là, je me suis heurtée à un autre problème. D'abord, j'ai été accueillie, par exemple, une fois par un monsieur charmant qui m'a dit « Écoutez, je lis Le Monde, je connais votre nom, mais vous faites malheureusement une erreur, c'est un homonyme. » Et moi, je savais très bien que c'était lui. Hein, ouais. Mais je ne pouvais pas le forcer à me parler. Il m'a d'ailleurs souhaité bon courage pour mon enquête. Et puis, deux autres fois, j'ai téléphoné chez des personnes qui étaient donc âgées et je suis tombée deux fois sur une voix de femme. Qui me disait, j'expliquais, je voudrais parler à monsieur Intel, sans dire de quoi il s'agissait. Elles m'ont dit, on va aller chercher, je vais chercher mon mari. Et là, c'est vrai que j'ai raccroché parce que je me suis dit, qui suis-je pour aller briser une vie de couple, raconter peut-être un secret enfoui qu'elle-même, cette dame âgée, ne connaissait pas. Et donc, c'est finalement... Grâce à des amis d'amis, c'est uniquement par le bouche à oreille que j'ai réussi à rencontrer des personnes, dont Bernard Bousset. Voilà. Et c'est vrai que quand j'arrive chez Bernard Bousset, je pense rester une heure chez lui. Et je reste 5 heures. Parce que son histoire résume très exactement, il me le dit d'ailleurs, ma vie de PD, me dit-il, c'est le mot qu'il a employé, c'est le mot qu'on employait à l'époque, qu'il était, voilà.
Et qui s'emploie toujours. Et qui s'emploie toujours, mais dans une certaine génération. Toujours. Voilà, hein,
c'est-à-dire la régénérationnelle, vous avez raison.
La réappropriation de l'insulte pour en faire une force. Hein, exactement. C'est très notoire.
Et cette vie est extrêmement douloureuse. Je dois dire qu'il m'a beaucoup émue et je suis d'ailleurs allée le voir trois fois parce que je voulais vérifier des tas de détails avant. Et je dois dire que, alors c'est peut-être un peu présomptueux, mais du coup je l'ai eu au téléphone évidemment depuis, ça a été une sorte de déflagration, la publication de ces deux pages dans Le Monde. Il a reçu un nombre de coups de téléphone incroyable et bon, c'est peut-être un peu immodeste, mais la prétention de croire que ça lui a fait du bien.
Ça ne m'étonnerait pas, figurez-vous. Je ne le connais pas personnellement, mais je vois bien le processus qui se déclenche après, et effectivement. Alors, il y a d'autres personnages, comme Michel Schumacher, le Lyonnais, le flamboyant.
Oui.
Alors, l'affaire Manhattan, c'est quand même une sacrée affaire.
L'affaire Manhattan, voilà. Géniale affaire. Voilà. L'affaire Manhattan, on est en 77, une descente de police dans ce bar cuir du 5e arrondissement, où il n'y a d'ailleurs que des majeurs, hein, de plus de 21 ans, et une descente de police, et tout le monde est arrêté, embarqué dans le panier à salade au Quai des Orfèvres, et c'est une date dans l'histoire du combat homosexuel, puisque tous ces prévenus décident non pas de baisser la tête, non pas de dire au moment du procès c'est une erreur, je ne savais pas où j'étais, c'est un moment d'égarement, ne le dites surtout pas, je suis mariée. Ils décident d'assumer, et certains ont donc appelé ce procès du Manhattan qui a lieu en 78 au tribunal de grande instance de Paris une sorte de petit Stonewall français, puisque pour la première c'est fois ça. Le mot de fierté était revendiqué. Et Michel Schumacher est un personnage très intéressant, d'abord parce qu'il est devenu militant après cette affaire alors qu'il ne n'était pas, et puis parce que il est le premier à avoir créé dans une bibliothèque municipale française un fonds d'archives qui s'appelle le fonds Schumacher, et dans lequel il a gardé toutes ses archives de l'époque des années 70 et 80, et en ce sens ce fonds est très précieux. D'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup de documents pour écrire mes articles, et c'est peut-être, on espère, les prémices d'un centre LGBT qu'on nous promet depuis très longtemps et qui n'existe pas.
Alors, si on parle centre d'archives, il y a effectivement Michel qui a fait ce que vous exprimiez. Et puis, il y a d'autres archives très personnelles. Je pense à Mémoire des sexualités, Christian Deleuze, qu'on voit dans le film de Sébastien Lifshitz sur les
personnes. Absolument, que j'ai aussi.
Voilà. Et lui, il a un fond, mais alors dans son appartement, avec des étagères à n'en plus finir. Et c'est
exactement
comme l'Académie gay-lesbienne avec des archives, et on n'a toujours pas de...
Alors, je connais pas bien, mais effectivement, ça ressemble à ça. Parce que moi, je me suis vraiment plongée dans ce sujet sans rien connaître. Je partais, j'étais vierge de tout, je ne connaissais rien. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'étais surprise, parce qu'au fond, l'abrogation du délit d'homosexualité, ça date de 1982, c'est 40 ans, c'est à cette occasion que j'ai fait cette série d'articles, mais c'est tout proche, au fond, 40 ans. Et c'est ça qui m'a frappée. Je n'imaginais pas que c'est pu être possible jusqu'en 1982.
Et il nous reste 2 minutes. Les dossiers de l'écran, vous en faites tout un papier autour de Jean-Paul Pouliquen, qui nous explique, marié, qu'il essaie de pas trop attirer l'attention, mais qu'il est totalement happé par la flamboyance des invités comme Jean-Louis Bory face aux scientifiques.
Exactement.
Ou prétendus scientifiques.
Exactement. Première émission grand public consacrée à l'homosexualité, plutôt de bonne tenue.
Oui.
On voit qu'il y a un virage et que ça commence commence à devenir un peu plus compréhensible pour les gens de télévision. Et Jean-Paul Pouliquen, qui est le père du Pax, et qui regarde ça chez lui, sous son drap, et il m'explique, je regarde ça sous mon drap parce que je suis à côté de ma femme, j'ai peur qu'elle me voie rougir. Et ça a été le cas d'ailleurs de beaucoup de personnes qui ont regardé cette émission, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Et je l'ai raconté à travers ses yeux. Et tous ces articles, sans vouloir faire de la pub pour mon journal, vous pouvez les retrouver en ligne sur le site dumonde.fr.
Non, mais si, on peut et on doit en faire la pub. Et les retombées pour vous, est-ce que vous avez reçu des courriers?
Énormément. Oui. Énormément, ça m'a fait beaucoup de bien parce que comme je suis plutôt enquêtrice, on se fait souvent engueuler quand on fait une enquête, hein, ça fait pas plaisir à tout le monde. Et là, ça m'a fait beaucoup, ça a été, je dois dire, très gratifiant parce que j'ai reçu énormément de messages, mais de tous les côtés, de tous les partis politiques, de tout le monde. Et les gens disaient, mais vous parlez de quelque chose qui n'est jamais raconté, dont on ne parle jamais. Et ça m'intéresse beaucoup d'interroger la grande histoire par la petite histoire. Et même, par exemple, j'ai fait beaucoup parler Robert Badinter de son implication dans cette loi. Il m'a d'ailleurs révélé un secret qui est qu'il a défendu comme avocat un homme qui était un notable de province, marié, et qui s'était fait attraper comme ça par la police et qui s'est suicidé. Et je pense que c'est à l'origine de son implication à partir de 1975 auprès de François Mitterrand pour abolir ce délit d'homosexualité.
En tout cas, on ne vous a pas écrit, mais on a préféré vous inviter ce soir dans Quoi
s'arrondir.
Et pour
c'est
parler
très
ensemble.
Gentil, ça me fait extrêmement plaisir.
Mais non, mais c'est vraiment très important.
Bonne route et bonne chance à votre radio.
Merci beaucoup et très bonne soirée à vous, Ariane Chemin. Et on remercie en même temps Anne Chemin de nous avoir transféré le mail. C'est plus pratique. C'est de la sauce interne.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Au revoir. À très bientôt. Alors, dans ce Quasar en d'hier, nous allons terminer, fermer la porte de l'émission avec l'agenda. Alors, vous notez tout de suite sur vos tablettes, samedi prochain, c'est l'Assemblée Générale de Quasar. Et pour ça, on se donne rendez-vous, salle d'Avier, 14h30. Pas de permanence, ça c'est sûr. Elles reprennent les 5, 12, 19 et 26 février prochains. Après, une date à retenir, le jeudi 3 février, le temps transparent, groupe de parole pour les personnes des familles, des personnes transgenres, agents et non-binaires, jeudi 3, 19h à Quasar. Lundi 7, c'est la réunion Prépa Pride de l'Entre-deux, la Pride prévue, je vous le rappelle, le 14 mai prochain, à l'Entre-deux, 19h. Jeudi 10, nouvelle émission de Quasar en d'hier, comme le jeudi 24, et puis le samedi 19 février, ça sera le nouveau numéro de Transat, le groupe de parole, cette fois pour et uniquement pour et par les personnes transgenres, agenres et non-binaires. Ce sera toujours à Quasar, 15 rue de Jérusalem. Une émission chaotique qui a mal débuté, mais qui s'est bien terminée avec Ariane Chemin qui nous exprimait un peu son enquête sur ce délit d'homosexualité, ou plus exactement, cette discrimination qui existait, puisque les homosexuels ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles avec des gens de moins de 21 ans, alors que les hétérosexuels, eux, pouvaient dès 15 ans. C'est ça ce qu'on a appelé effectivement la discrimination. On vous embrasse, on vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de Radio G. On se dit à dans 15 jours, toujours frais, en pleine forme et avec la volonté toujours de vous faire plaisir et de pouvoir aborder tous ensemble des thématiques qui concernent l'homosexualité, la transsexualité, tous les problèmes qui existent et que nous combattons pour de nouveaux droits et ainsi de suite. On vous embrasse, très bonne soirée, ciao, bye.
Radio G. 101.5 FM. Yes.